Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons nous retrouver autour d'un texte de la Bible. Alors, je vous propose dans la lettre de Paul, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, et puis je vais vous donner les références qui suivent. Voilà, donc Paul a écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 4, et au verset 16, et puis ensuite nous passerons quelques versets dans le chapitre 5, si vous voulez bien. Je vous remercie. Alors, il écrit ceci, et c'est un encouragement pour chacun. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, de même que notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit par l'âge. Notre homme intérieur, notre âme, notre vie invisible, se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, ça s'appelle la foi, ça. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. On continue avec le verset du chapitre 5, quelques versets. Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire notre corps où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Une deuxième lecture qui fera suite à celle que nous venons de faire dans Éphésiens, toujours l'apôtre Paul, c'est lui l'auteur. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, à vrai dire, c'est vrai que lorsque nous ouvrons les épîtres de Paul, c'est assez compliqué. Il faut bien le reconnaître. Parce qu'il y a des expressions qui sont des métaphores, des paraboles. Mais je voudrais rendre les choses faciles à travers une image ce matin. À travers une histoire que vous êtes à même vous-même de vérifier, parce que la vérification n'est pas trop difficile. Et il est question justement à travers cette écriture de Paul, ce que peut être la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie naturelle des hommes, c'est-à-dire ses dimensions, ses présentations on peut dire charnelles, humaines, naturelles, spirituelles, morales, enfin tout ce que nous pouvons connaître, et nous avons déjà naturellement la compréhension un peu de ce schéma. Et il est intéressant de pouvoir bien porter une observation sur un phénomène particulier qui nous enseigne dans notre vie de chrétien, notre vie spirituelle. Un chrétien, c'est un homme qui a rencontré Jésus. Pas tant adhéré à une religion, mais qui a rencontré Jésus et qui en a fait une expérience bouleversante. Parce que nous pouvons dire que dans notre vie, il y avait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et Paul l'explicite dans Éphésiens, il dit « Mais moi, Dans ma religion israélite, je connaissais certainement et bien Dieu et Christ selon la chair, c'est-à-dire d'une manière religieuse. Mais maintenant, et il pourra le dire avec son expérience du chemin de Damas, il pourra dire, mais maintenant, ce que je sais de Dieu, ce que je sais de Christ, mais n'a plus du tout le même rapport, ce n'est plus du tout la même chose, c'est une dimension spirituelle, une dimension de foi dans l'esprit. Je vais passer très rapidement sur ce que nous avons lu ensemble dans ces premiers versets. Paul parle de l'homme intérieur, c'est-à-dire de l'homme profond, c'est-à-dire son âme, ce qu'il est, c'est invisible. Maintenant, nous nous reconnaissons par notre identité visible et physique, ça c'est certain, et nous portons un nom. Et cet homme intérieur, il nous dit, il se renouvelle de jour en jour. Autant nous vieillissons et que, ben voilà, l'âge aidant, nous partirons, mais qu'à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le contraire qui se produit. Ce n'est pas une vie qui se détruit, c'est une vie qui se renouvelle. Une vie qui va finalement, eh bien, rajeunir en quelque sorte. Et ça, c'est par les temps qui courent où il y a tant de modifications du physique, ça fait plaisir hein, de savoir que, bon, d'un côté, c'est vrai, ça c'est la loi de la vie, la loi de la nature, et puis après, à l'intérieur, il y a quelque chose, se renouvelle de jour en jour. Il dira même, nous avons dans le ciel un édifice, c'est-à-dire que il parle d'une tente. Une tente, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui peut battre au vent et disparaître. C'est la fragilité à côté d'une maison en dur. Une tente, voilà. Hein, c'est la comparaison toujours. Et il parle d'un édifice, c'est-à-dire d'une construction que Dieu va faire, qui est l'ouvrage de Dieu. Et ce n'est pas visible, c'est invisible à l'intérieur de nous-mêmes, et qui sera une demeure éternelle. C'est-à-dire que notre corps, il est temporaire, temporel, il va disparaître à un moment ou à un autre. Mais par contre, il y a là, en parallèle, et on pourrait dire, en parallèle, ça marche en parallèle, mais ça marche aussi en contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir quelque chose qui va descendre vers la terre, et mais d'un autre côté, il va y avoir une personnalité qui va se dégager pour, eh bien là, aspirer et aller vers la demeure éternelle, le ciel. Il ajoute ceci qu'il désire de revêtir notre, nous désirons revêtir notre domicile céleste. Eh oui, un chrétien a une espérance. C'est pas mangeons et demain et mangeons et buvons car demain nous mourrons, c'est que nous avons une espérance vivante qu'après la mort, il y a une autre vie. Il y a une autre dimension. Donc domicile céleste. Et nous devons nous dépouiller pour nous revêtir. Et oui. C'est certain que lorsque nous voulons eh bien là nous allons changer d'habit en quelque sorte si je peux dire nous dépouiller, il faut quitter nos oripeaux de misère, notre vie terrestre, pour revêtir une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, une nouvelle identité surtout. Et nous avons été instruits, c'est ce que nous allons faire ce matin, à travers une petite histoire que je voudrais vous rapporter. Nous allons être instruits, la parole de Dieu va nous instruire à nous dépouiller pour être renouvelés dans l'esprit de Dieu. Voilà, nous restons des hommes. Nous restons éminemment des hommes, avec ce que nous sommes finalement, mais par contre, en parallèle, c'est une nécessité, on l'appellera la sanctification. On l'appellera tout simplement la régénération de l'esprit. Et ça, c'est incontournable, mes frères et sœurs, mes amis, c'est incontournable. Pour aller au ciel, il faut que nous soyons rendus à l'image de Jésus-Christ dans ses perfections, dans ses fruits. Fruit de l'esprit, en quelque sorte. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, il y a également la tempérance, il y a la foi, enfin toutes sortes de choses, il y en a 9, hein, les fruits de l'esprit, on peut les retrouver dans Galates, chapitre 5, verset 8. Instruits à vous dépouiller pour être renouvelés dans une autre dimension. Un chrétien n'est pas seulement un passager sur cette terre et il va naître, il va vivre, il va mourir et puis finalement le capital Dieu que Dieu lui a donné restera intact. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a là finalement une reconquête d'une vie nouvelle, quelque chose qui, eh bien, nous amène à être de nouvelles créatures. Paul le dit. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle création, avec un tempérament, avec un caractère, avec des attributs, avec des caractéristiques qui sont celles, finalement, de la foi et de l'exemple que nous avons dans la personne de Jésus. Il y a un homme que nous connaissons tous, il s'appelle Jean-Baptiste. On sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'a été son ministère. À un moment donné, Il dira, en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Eh oui, que Jésus prenne toute la place dans notre vie. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'intégrisme, ce n'est pas là, je ne sais quelle illusion, mais c'est une réalité. Être chrétien, c'est ça. Et nous allons donner une application ou quelques applications diverses de ce que peut nous inspirer d'abord la nature. Je parlais en titre naturel et ensuite nous arriverons au spirituel. La Bible est un formidable livre de sciences naturelles. Et que vous tourniez les pages du début jusqu'à la fin, il y a là un enseignement extraordinaire. Et elle nous inspire, la nature. Il y a ce grand livre de la nature autour de nous. Alors certains y verront que là, tout simplement, eh bien, un aboutissement de l'évolution, etc., etc. D'autres verront, et les chrétiens verront que, de toute manière, ce monde matière n'est pas né du hasard, mais il est né de l'esprit. Parce que le monde est esprit. Le monde réel est esprit. Nous avons qu'une vision des choses. Si nous tournons et compulsons les pages de notre Bible, nous allons nous apercevoir que ça commence par, bien sûr, la création minérale dans les premiers livres de la Genèse. Mais après, il y a la création animale, ce qui correspond au cinquième et sixième jour, on ne discute pas sur les temps. En passant par l'arche de Noé, qui est aussi une image de salut, naturellement. Puis, nous avons les savantes observations sur les animaux du livre de Job. Vous voulez aller au zoo? Ben, vous lisez le livre de Job. Et vous verrez, il est parlé des animaux de la terre, et beaucoup avec leur façon d'être, avec leur adaptation, avec toutes sortes de choses. Donc, les animaux du livre de Job, il est parlé du lion, il est parlé de la chèvre, il est parlé de l'âne, il est parlé du buffle, il est parlé de l'autruche, il est parlé du cheval, il est parlé de l'épervier, de l'hippopotame et du crocodile. Ça va? Bon. Vous avez fait le tour du zoo, hein. Donc, mais dans les détails, c'est extraordinaire. Et pourquoi un livre qui nous parle de l'art de bien souffrir sur la terre nous parle des animaux? Ah, ça, c'est quelque chose. Et puis, il y a d'une manière très précise dans le livre de Job aussi la description de la société des fourmis, en analogie avec les hommes qui sont des petites fourmis sur la terre. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a également, pour aller un peu plus loin, tournant les pages, jusqu'aux grandes visions symboliques des prophéties de Daniel. Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ou encore de l'Apocalypse, où les choses sont imaginées en ce qui concerne les civilisations, les royaumes antiques, les empires antiques, etc., à travers le bouc, l'ours, l'agneau dans la Bible, qui est l'image de Jésus sacrifié. Et nous apercevons que l'Écriture sainte est riche et offre une réflexion inépuisable. Et pourquoi tout ça s'est écrit dans un livre qui se dit à caractère religieux? Eh bien, c'est qu'il y a une raison. Nous sommes là en plein dans le naturel de la création, la création naturelle, pour nous montrer qu'il y a autre chose. Et même, je voudrais, même Jésus s'inspire de la nature pour nous enseigner la foi, pour combattre l'inquiétude, quand il dira « Regardez les oiseaux du ciel ». Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant je vous dis que votre Père Céleste les nourrit. Petite allusion, hein, parce qu'on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est pas le propos. Alors, en utilisant les merveilles de la création, nous allons réfléchir, tout simplement, passer à une étude, à une observation attentive d'un petit ou de petits animaux marins, que l'on appelle et qui ont été classés selon les espèces dans la catégorie des crustacés. Ça vous va? On est au bord de la mer là, hein, ça c'est pas trop difficile. Vous imaginez un peu ce que c'est qu'un crustacé? Voilà, c'est blindé, hein, c'est voilà, et ça court vite, voilà. Donc tout simplement. Et j'aimerais rappeler quelques principes essentiels, quelques caractéristiques principales. En ce qui concerne cette comparaison que nous allons faire, et contrairement à nous les humains, les hommes, vous allez remarquer, parce que c'est plein de pertinence, eh bien la particularité d'une écrevisse, d'un homard, enfin de tout ce que vous voudrez, c'est d'avoir ses os à l'extérieur, alors que nous, nous les avons à l'intérieur. Ça va? Heureusement que j'ai une cravate qui cache le reste, hein, parce que... oui, ben, vous avez remarqué, les os d'un crustacé, ils sont à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est tout mou. Par contre, nous, on pourrait dire que la chair qui recouvre notre corps et nos os sont à l'intérieur. C'est une superstructure qui nous permet de tenir debout, avoir le mouvement, enfin toutes sortes de choses. C'est extraordinaire quand on considère les choses de cette manière. Et on comprend que Paul, que le roi David a écrit « je te loue, mon Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Alors, pas trop d'orgueil, hein, parce que faut pas s'envoler quand même. Toujours est-il que, eh oui, Dieu a fait ce genre, ces animaux, avec les os à l'extérieur. Et nous, nous les avons à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est compliqué pour manger un crabe ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est, faut y mettre les mains, hein, de toute façon. Mais c'est une raison d'être. C'est une raison d'être parce que c'est une sorte d'enveloppe qui protège l'animal. Je dirais peut-être plus précisément une carapace. Il est carapacé ou carapaçonné, je ne sais plus, hein, toujours est-il. Et cette constitution lui assure une implacable ou une imparable protection. Tous ceux qui s'agitent autour d'un crabe ou je ne sais quel animal, et tout ça, ils se cassent les dents. Hein. Enfin, ça dépend finalement la grosseur de celui qui attaque, hein, naturellement. Mais c'est dur. Hein. Et c'est fait pour ça d'ailleurs. Hein. On le voit chez les escargots. On le voit chez les tortues et les autres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin? Vous allez voir. Je dirais simplement que, et là c'est un peu de chimie, mais cet assemblage qui constitue la carapace de ce genre de bestiole est composé de calcaire qui devient à la fois une prison, je dis bien une prison, et également une sécurité. Il y a les deux. Prison d'un côté, sécurité de l'autre. Prison, sécurité. Et vous allez voir. Parce qu'il y a naturellement quelque chose à en tirer. Cette carapace s'épaissit en vieillissant. On finit par avoir les sauces dures. Hein. Ouais. Ça s'épaissit en vieillissant. Et ça fait partie aussi du processus, hein, finalement, de ce petit animal. Et il y a une période, alors on dirait peut-être une fois par an, mais je ne sais pas, hein, je n'ai pas été dans le détail, mais une fois par an, un miracle de la nature va se produire dans ce genre, eh bien là, d'animal. Il va se produire, c'est que le crustacé a la possibilité, la nature lui offre l'occasion de grandir. Je dis bien de grandir. De se développer, de pouvoir croître, de pouvoir devenir encore plus fort, plus gros. Donc de rentrer dans une nouvelle dimension en quelque sorte. Alors peut-être on peut se poser la question, mais comment ça peut se faire? Eh oui, eh ben ça se fait à travers un phénomène que nous allons bien, que nous connaissons bien naturellement, hein, qui est aussi le propre des reptiles, enfin bon, toutes sortes de choses. Mais comment cela peut-il se faire? Nous, on grandit pas de cette manière, hein. On source pas nos os pour essayer de les tirer pour être plus grand, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Mais pour ce genre d'observation, eh bien, c'est comme ça. Cela s'appelle la mue. Muet. Alors, on a de grands adolescents, quelquefois, qui muent, mais attendez. C'est la voix qui mue, hein. C'est pas le reste, hein. Enfin, ils muent aussi, mais, hein. C'est assez curieux d'avoir, quelquefois, un préado qui a une voix toute fluette, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, il commence à voir. On pourra en faire un baryton, hein. Voilà, dans un orchestre. Et il y a là, mes amis, un processus de développement qui va exposer le crustacé à un grand danger que l'on appelle le dépouillement. Eh ben oui, parce que pour aller d'un endroit à un autre, pour aller d'un espace à un autre, il faut se dépouiller. Tiens, c'est curieux, on l'a lu là tout à l'heure, le mot dépouillement. Pour les chrétiens, ça ne veut pas dire vendre tous nos biens, ça ne veut pas dire vendre notre maison, vendre notre voiture, et puis partir sur les routes en disant « ben voilà, je suis bien dépouillé maintenant, il ne me reste plus rien ». Non, c'est pas ça. Hein, faut pas prendre la Bible et l'Écriture sainte au pied de la lettre, parce que là, on est des fanas. Hein, non, il y a quelque chose. Un grand danger, le dépouillement. Jésus, lui-même, s'est dépouillé. Lui, Dieu, Fils de Dieu. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2, dans « Se faisant homme parmi les hommes ». prenant la condition des hommes, vivant la vie des hommes, de la naissance jusqu'à la mort, et toutes les souffrances qui sont entre. En théologie, on appelle ça la kénose, c'est-à-dire le dépouillement, où Jésus a tout abandonné pour venir sur cette terre, et ainsi devenir un homme semblable. C'est pour ça qu'on l'a appelé fils de Dieu et fils de l'homme. La kénose. Alors, à travers ce dépouillement, notre petit animal, ou grand, je ne sais pas, va pouvoir grandir. On va lui donner peut-être un autre verbe. Il va pouvoir grossir, hein. Mais il lui faut perdre sa carapace, son blindage. Il faut qu'il sorte de sa prison pour être libre. Mais il faut qu'à ce moment-là, il puisse avoir prison d'un côté, sécurité de l'autre. Il sera certainement encore plus en sécurité lorsqu'il aura revêtu son nouveau domicile, parce que la carapace sera plus forte, elle sera régénérée en quelque sorte. C'est ainsi que les choses se font. Alors, notre petite langoustine, ça, même pareil, hein, c'est pareil. Par des frottements, par des secousses, par des convulsions, par toutes sortes de mouvements, et souvent violents. La violence tient compte, hein, de cette... C'est comme mettre un enfant au monde, hein, ça se fait dans la violence, n'est-ce pas, mesdames, hein, ça se fait pas tout seul. Et quelquefois, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des souffrances. Mais une fois que les choses sont faites, il y a une grande joie. Un homme est né dans le monde. C'est tout à fait différent, hein, bien sûr. Alors, entre la souffrance et puis la joie, entre cette condition où il y a là pendant un certain temps chez notre petit animal comme une frustration parce qu'il est en prison, il est resserré, il sait bien que je lui manque d'air, enfin, façon de parler, il est dans l'eau, mais toujours est-il qu'il est là, et quelquefois dans nos vies, Dieu permet que nous soyons dans une sorte d'embarras. On veut aller plus loin, il y a une aspiration. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir de notre condition? Et puis on a peur, on craint. Ou alors à ce moment-là, il faut se livrer, et puis c'est Dieu qui va nous dépouiller, mais pour nous faire rentrer dans une autre dimension. Et là où nous allons pouvoir trouver la liberté. Un chrétien est promis à la liberté. Oui, Paul l'écrira dans Philippiens, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et moi, je suis tout à fait convaincu que le christianisme n'est pas une prison, n'est pas un étranglement, n'est pas une restriction, n'est pas un empêchement de vivre, mais c'est un épanouissement. Enfin, en tous les cas, me semble-t-il que moi, je m'y applique, en tous les cas, ça maintenant, voilà, tout le monde le comprend, on le comprend pas. Mais c'est biblique, en tous les cas. Donc, on s'aperçoit que ce petit animal, eh bien là, va avoir à souffrir pour sortir de sa carapace, parce qu'elle l'handicape, elle est calcifiée, elle est durcie, et tous ses mouvements sont paralysés. Hein. Ça peut arriver pour des enfants de Dieu, hein, on est bien placé pour le savoir, où là, ils sont en stationnement pendant des mois, pendant des années, et quelquefois plus que ça, même toute une vie. Hein. Et il faut que le vent passe, il faut que le souffle passe, mais ça comprend une souffrance, naturellement. Souffrance par rapport à soi-même, par rapport à notre égoïsme, par rapport à notre ego, je modifie, hein, ça revient au même, par rapport à nos idées préconçues, par rapport à ce que nous nous sommes donné comme finalement perspective, un certain idéal évangélique, mais notre idéal évangélique, c'est l'esprit qui doit nous le renouveler, pas nous le fabriquer. Faut faire attention, hein. Alors, il va se débarrasser de sa coque prison, qui est devenue trop étroite, et il va se retrouver à ce moment-là, on va voir la transition, les choses se sont faites, mais il va se retrouver tout nu. Il va se retrouver sans force, parce qu'il y a eu tellement d'efforts, il est épuisé, notre petit animal, là. Il n'en peut plus. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, il va entrevoir véritablement la liberté. On comprend un petit peu, hein, le sens de la chose, hein. Parce que je suis en train de palpiter avec vous dans cette dimension de nouvelle naissance. Moi, je crois qu'il y a une nouvelle naissance que nous avons tous connue à un moment donné. Mais il y a des renouvellements dans notre vie. Et c'est normal. Si nous disons que je suis chrétien, je suis dans l'église, je suis assis sur la même chaise, et que finalement, jusqu'à la fin, je serai comme ça, mes frères et sœurs, nous nous trompons. C'est que la vie de Dieu, elle est permanente. Le souffle de Dieu, il est finalement, jour après jour. Et il veut nous faire évoluer, non pas rester tout simplement là comme ça. Non. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir croître. Il veut nous voir nous développer. Il veut nous voir finalement, eh bien là, ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. Dans ses qualités, non pas dans les dons. Parce que je voudrais le répéter encore ce matin. Faut-il encore le répéter? Un don, c'est un cadeau de Dieu. Nous ne le méritons pas. Alors n'allons pas en faire un trophée pour nous en disant « Moi j'ai des dons ». Alors on laisse ça tomber. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est le fruit de l'Esprit. Et là, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à porter les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit, automatiquement, pour que l'arbre qui le porte, en l'occurrence ce que je suis, eh bien, il va falloir passer des saisons. Il va falloir passer des hivers, il va falloir passer des printemps, il va falloir... Il y a tout un renouvellement. L'arbre va être battu à un moment donné par des vents, par des tempêtes, par des orages, enfin toutes sortes de choses. Mais ça, est-ce que ce n'est pas la vie chrétienne? Au lieu de se récréviller confortablement dans notre petit cocon en disant, c'est bien, non? C'est pas comme ça, hein? Derrière cette progression, il y a naturellement de la souffrance. Et en ce qui concerne le homard, eh bien... Quand il aura évacué sa carapace, il va être nu, il va être sans force, il va être exsangue. Arrêtons de nous plaindre des épreuves qui peuvent nous arriver, si ce n'est que nos épreuves, quelquefois, nous les provoquons nous-mêmes. Bon, ça c'est autre chose, il y en a qui arrivent d'autre part, mais arrêtons de nous plaindre, mes frères et sœurs. Ou alors nous n'avons rien compris à la vie spirituelle. Et regardons plutôt à ce que Dieu veut faire de nous. Ayons la vision et la perspective de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et que nous le puissions collaborer avec lui. Il y en a qui voient le diable partout en disant « c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable ». Hein? D'autres ne voient rien du tout. Bon, c'est autre chose. Mais moi, je crois que le Seigneur veut nous conduire à grandir et à croître. Et grandir et croître, ça suppose qu'il y ait eh bien quelque chose ou que nous fassions d'étape en étape et quelquefois ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Et nous nous retrouvons sans force. Eh ben oui. Mais les forces, c'est pas les forces dont nous parlons, les forces physiques que nous avons besoin. C'est les forces spirituelles que Dieu dit. Et le Seigneur me fortifie, nous dit Paul dans Éphésiens. Et c'est par sa force que je me fortifie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris grand chose. Il est libre. Et la vraie vie n'est pas la coquille inerte, hein. Il y a des religions qui sont restées dans des coquilles inertes. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de... On se croirait dans des cimetières. Ben, le cimetière, c'est les morts. Mais dans la vie spirituelle, la vie de l'Église, c'est la vie. La joie, le dynamisme, l'enthousiasme. Parce qu'en grec, je vous le rappelle, enthousiasmos, ça veut dire Dieu en soi. Alors, il faut savoir s'il est en nous, ou s'il est à côté, ou s'il est parti. Hein. Mais nous apercevons que la vraie vie, elle est... Après ce dépouillement, elle est toute fragile, elle est frémissante chez l'animal dont nous parlons. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il passe par la mort, une sorte de mort, ce homard, pour revivre. Mais est-ce que je reste biblique, là? Selon les textes bibliques. Eh oui. On va le voir d'ici un instant. Il passe par la mort pour revivre une nouvelle épreuve. Et pendant quelques semaines, et durant un certain temps de ce dépouillement, parce qu'il ne faut pas vous imaginer qu'il va perdre sa carapace, il l'a perdu hier soir, et que là, maintenant, dès le matin, le lendemain, non, il va se cacher. Il va se mettre là, naturellement, en protection, et il va en profiter pour croître. Il ne va pas courir de tous les côtés, parce qu'il sait qu'il va se faire manger. Hein. C'est comme ça, hein. Il va en profiter pour croître jusqu'à nouveau, une nouvelle carapace de protection se reforme et il aura grandi dans l'épreuve de la mue. Il aura grandi, tout simplement. Et vous savez que ces petits animaux sont des gloutons, hein. Ce sont les éboueurs de la mer. Hein. Je peux vous dire que tout ce qui leur tombe sous la pince, ils mangent. Voilà. Ben, mangeons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu, vivons dans la communion avec le Seigneur, de plus en plus par l'Esprit. Alors là, on va grandir. Ça, c'est clair. Que Dieu nous donne de l'appétit. Hein. Alors, ce processus appliqué à la vie spirituelle a été clairement exposé tant par Jésus que l'apôtre Paul. On le voit pour Paul, mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit un jour sur ce processus de dépouillement pour pouvoir être revêtu et de passer d'une étape à une autre? Écoutez, dans Jean, « en vérité, nous dit Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. » Ouais, je le dis bien, vous savez ce que ça veut dire? Il va disparaître, le grain de blé. Vous ne le retrouverez pas 8 jours après avoir été le champ ensemencé. Il va disparaître, mais il y a un processus de vie dans toute la petitesse de ce qui va rester. Un processus de vie. Microscopique, on pourrait peut-être dire. Alors, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il va rester seul, c'est-à-dire qu'il va disparaître, il ne va plus rien avoir. Mais s'il meurt, s'il se laisse dépouiller, le chrétien, s'il se laisse entreprendre par le Seigneur, pas par les hommes, pas par le pasteur, ça sert à rien tout ça. Par une discipline ecclésiale, ça ne sert à rien. Mais par le Saint-Esprit, par la vie de Dieu à l'intérieur de lui-même, alors il porte des fruits. On revient toujours à la même chose, il porte des fruits. Pas des dons, mais des fruits. Dans Corinthiens, nous l'avons lu, je le relis. Nous savons en effet que si cette tente, ce corps, où nous habitons sur la terre est détruite, ça arrivera. Nous avons dans le ciel un édifice qui est la maison de Dieu. Nous sommes en train de préparer notre édifice pour le ciel, mes frères et sœurs. Une demeure éternelle, pas temporelle, qui n'a pas été faite de main d'homme, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, une nouvelle création. Dieu nous a créés déjà en tant qu'homme à la création, libre de la Genèse, etc., etc. Mais il nous a donné une nouvelle création par la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est une création spirituelle qui va modifier notre tempérament, notre caractère, notre façon de voir, notre morale, sans que ça soit de la moralité, parce que la moralité, c'est autre chose. Ainsi, gémissons-nous sous cette tente. Nous soupirons parce que nous sommes à l'étroit, comme le crabe, désirant revêtir quelque chose d'autre. Le plus terrible pour un chrétien, c'est de ne pas aspirer à cette autre dimension qui est la dimension spirituelle et l'espérance du ciel et du royaume des cieux. Là, il y a véritablement une carence. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est pour ça que dans cette transition, après le dépouillement, il ne faut pas rester tout nu. Il ne faut pas rester là, finalement, complètement démunis. Il faut rentrer dans une autre dimension, une autre phase. C'est important de le souligner. Notre petit crustacé passe par la mort pour revivre. Le grain de blé passe par la mort pour revivre. Et un grain va en donner 10, 50, 100. Il va se multiplier à l'infini, naturellement. Une nouvelle étape. Alors il va naturellement, grandir dans l'épreuve, avons-nous dit. Ce processus appliqué à la vie spirituelle, donc, est exposé par Jésus et par Paul. Se dépouiller de la carapace de notre nature, de notre péché. Alors là, c'est très vaste parce qu'il y a beaucoup de... On n'est pas tous pareils, mais on est tous des pécheurs de toute façon. Tous des choses qui finalement ont besoin du vieil homme. Par opposition, il est parlé dans la Bible de l'homme nouveau, le vieil homme, de la propre vie, notre propre volonté, seul moyen de nous revêtir de la personnalité de Christ. On a tous des caractères, heureusement d'ailleurs, on a tous des tempéraments. Alors quelquefois, ils sont bénéfiques parce que les autres en profitent et c'est une bénédiction. Parfois, les caractères sont tellement aigus ou extrémistes que c'est les autres qui pleurent autour de nous. Et Jésus n'a pas fait pleurer les gens. Il leur a donné la joie du salut. Ça, c'est une autre affaire. Et pour un chrétien, c'est inadmissible que finalement, nous soyons des porteurs de tristesse au lieu d'être des porteurs d'espérance et de joie. Alors, revêtir une personnalité, celle de Christ. Alors, toutes nos coquilles inutiles, qu'est-ce que nous allons en faire? Parce qu'il y en a, Nos carapaces encombrantes, que nous traînons quelquefois comme des casseroles derrière nous, et ça fait du bruit, tout le monde les entend. Et ça, c'est une question de tempérament et de caractère. Parce que une chose qui est certaine, c'est que nous sommes chrétiens et que nous voulons être que nous persévérons dans notre foi chrétienne, c'est que ce que nous préparons, c'est le ciel. C'est pas autre chose que le ciel, mes frères et sœurs. Parce que si au ciel, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des trompes, je ne sais quoi, etc., etc., moi, j'y vais pas. Je me suis renseigné, il n'y en a pas. Bon, j'espère y aller. Mais c'est pour dire, nos vieilles casseroles, faut changer. il faut que notre vie soit renouvelée, il faut que nous soyons de nouvelles créatures. Et ça, c'est incontournable. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Carapace encombrante, les cuirasses, les blindages, les armures. Vous vous souvenez de notre petit David ? Quand il a lutté contre Goliath, ils ont voulu lui mettre une cuirasse. Oh, le pauvre petit David, il était petit. Goliath était un géant. Il faisait au moins 3 ou 4 fois plus que David, et encore. Et le roi Saül qui dit à mon petit David, eh bien, tu peux pas aller te combattre avec le géant Goliath, tu vas prendre mon armure. Mais déjà, quand on savait qu'il était grand, déjà, Saül, hein. Et le pauvre David, quand il a voulu enfiler l'armure, il avait, ça claquait de tous les côtés, hein. C'était trop grand pour lui. Vous savez, il s'en est débarrassé de sa cuirasse, de ses armures. Et nous, si nous voulons aller au combat de la foi, où David dira, mais avec Dieu, nous ferons des espoirs, il faut balancer nos cuirasses et nos armures, hein. Parce qu'autrement, avons plutôt nous handicaper qu'autre chose, et on ne pourra pas grandir. Eh bien, tout cela doit tomber, finalement, car on ne peut revêtir la vie de Christ endossée par-dessus, tout simplement, le vieil habit. C'est antinomique, ça s'oppose, le vieil homme, Adam, et l'homme nouveau, Jésus-Christ. Dans Matthieu, il nous est parlé des outres. Alors, à chaque fois, c'est... On peut toujours mettre des huîtres dans des outres, hein, ou faire boire les huîtres avec des outres. Mais enfin, bon, peu importe. Non, mais vous l'avez remarqué, hein, ça, c'est quelque chose d'incontournable chez moi. Je tombe toujours dans le piège. C'est comme le vieil habit, je change, là. Le vieil habit, vous mettez pas sur un vieil habit, vous mettez pas un drap neuf, hein. Soit vous changez tout de tout au tout, ça sera beaucoup plus facile. Alors, dans la vie spirituelle, et j'en finis, c'est en perdant quelque chose que l'on progresse. Eh oui. Il y a des choses que vous avez envie de perdre. Vous vous souvenez du jeune homme riche, quand Jésus lui dit, viens, suis-moi, lui qui était venu, qui s'était affalé devant Jésus en disant, donne-moi maintenant ce qu'il faut savoir pour rentrer dans la vie éternelle. Jésus lui dit ce qu'il faut faire et il s'en va tout triste parce que il ne voulait pas laisser sa vie passer. Il ne voulait pas laisser sa réputation d'homme riche. Il ne voulait pas s'humilier, tout simplement. Alors il a tout perdu, hein. Et c'est bien dommage. Et je viens, pour en conclure, il y a cet étonnement processus de régénération qui, comme par miracle, je dis bien par miracle, je changeais, miraculeusement, surnaturellement, rend capable le homard de faire repousser, soit une de ses pinces qui est arrachée dans un combat, parce que c'est l'amour fraternel, hein, au fond des eaux, hein, je peux vous dire qu'ils y vont, hein. Par un crabe plus fort qui lui a arraché une pince, ou soit de reconstituer sa carapace à la période de la mue. Tout simplement, c'est un principe. Et nous avons, mes frères et sœurs, par la foi, le principe de nous renouveler par l'Esprit de Dieu et dans l'Esprit de Dieu. Vous le savez ? Ben, le sachant, il faut le vivre. Je ne pourrais pas vous dire autre chose. Il est vrai que nombre de crustacés succombent dans l'épreuve, hein, ça c'est sûr. C'est l'histoire que Jésus nous montre sur la tentation, hein. Vous savez, les 4 tentations, là, vous savez, le blé qui est semé dans le chemin, l'autre qui est semé dans les ronces, l'autre qui est semé dans la rocaille, et puis la 4e qui est semée dans la bonne terre, et là, ça pousse, hein. 1 réussit, 3 échoue. Bon, il faut pas se décourager, hein, parce que on veut faire partie justement de ce qui marche, hein. Alors, à ce moment-là, il y en a certains qui n'arrivent pas au bout. Bon, c'est une sélection naturelle, hein, dans cette épreuve épuisante de la mue. Et ils deviennent à ce moment-là, je suis toujours en entre-deux, très vulnérables dans ce temps. Mais il y a une dernière observation que je voudrais faire, c'est que le homard est tendre et fragile, je vous l'ai déjà dit, à l'intérieur, et on le sait, mais il est d'une dureté redoutable à l'extérieur, la dureté. La dureté dont il se sert comme arme offensive, mes frères et sœurs. Je vous rappelle que Jésus a dit de lui-même, et il l'a dit à ses disciples, « Je suis doux et humble de cœur. » La dureté, ça ne passera jamais. La dureté ne passera jamais. Jésus nous a donné l'exemple de la douceur et de l'humilité, donc douceur. On comprend ce que ça veut dire, l'humilité, c'est exit orgueil. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Jésus pouvait produire le miracle à tout moment. et pourtant il nous donne, eh bien, l'exemple, dureté redoutable à l'extérieur. C'est rare quand on caresse un homard, hein. On dit « il est doux », hein. C'est un bulldozer, c'est un petit char d'assaut, hein. Et il faut avoir de bonnes dents pour manger le homard avec tout l'ensemble, hein, l'enveloppe, hein. Ça c'est certain. Et nous voyons qu'il est dans un univers impitoyable aussi. C'est ce qui fait que, naturellement, il est dans un univers de compétition. Survivre pour un homard, c'est manger sans être mangé. Bonne moralité, hein, on voit. Alors, j'en finis. La vie de l'esprit a besoin d'espace et de liberté. Moi, je me suis toujours affirmé dans les églises où je suis passé en tant que pasteur, qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. On est dans la grâce. On n'est pas sous la loi, on est dans la foi. Un jour, vous ne l'entendrez peut-être plus parce que... Mais, peu importe. Mais moi, je le dis. Le légalisme, le moralisme, de vouloir avoir à tout prix raison, c'est pas bon. Donc, la vie de l'esprit a besoin d'espace et de liberté, c'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu cette parabole-là. Ne mettons pas, mes frères et sœurs, notre vie spirituelle à l'étroit. Ne retournons pas en arrière. Pour la plupart d'entre nous, nous avons eu un cursus religieux. Et je me souviens, tout était règle, tout était principe, tout était commandement, 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 commandement. On pensait que c'était des commandements de Dieu, mais c'était des commandements d'hommes et d'église. Et il a fallu des mois, voire des années, pour nous en défaire, à cause de l'autoculpabilisation qu'on nous avait intégrée comme une pathologie. Ne nous mettons pas à l'étroit. Toutes nos résistances à vouloir gagner ce que Dieu veut nous voir lâcher, parce qu'on n'a pas la même vue, hein, le Seigneur ne pense pas comme nous, hein. Je le répète, toutes nos résistances, nos oppositions, nos contradictions et nos affirmations à vouloir garder ce que Dieu veut nous voir lâcher, nous ferons marcher comme des écrevisses. On ne marchera pas droit, mais on marchera de travers. Vous avez vu comment ça marche? Imaginez-vous qu'on sorte tous de la salle sur le côté comme ça. Alors là, je recommence. Eh oui, marcher de travers? Non. On a Jésus qui marche devant nous, on le suit. C'est-à-dire de marcher à contresens et de marcher en arrière. Il est quelquefois terrible, même dans nos communautés, dans nos églises, de voir des gens qui ne marchent pas en avant, mais qui marchent en arrière. Qui marchent de côté, à contresens. La mue spirituelle est certes douloureuse. La sanctification est douloureuse, la régénération est douloureuse. Mais elle est nécessaire. Et si je vous dis ça ce matin, c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour que vous compreniez que Dieu veut vous faire du bien dans un processus qui est le sien et pas le nôtre. Processus qui est le sien, le sien. Et sans elle, cette mue spirituelle, eh bien, il n'y aura que stagnation et inertie. Ça sera tout simplement l'image ô combien fameuse des Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte de leur prison, qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan, et qui ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas pu évoluer, ils n'ont pas pu se développer. Vous vous rendez compte qu'ils auraient pu passer finalement tout ce temps dans le pays de Canaan, 40 ans ça compte, hein, c'est plus qu'une génération, où Dieu allait les bénir, mais ils ont refusé par incrédulité. Non, je ne lâcherai pas. Non, je ne veux pas. Non, ça sera comme ça. Et puis, ça ne sera pas autrement, etc., etc. Il y en a eu deux qui ont compris. C'était Caleb et Josué. Et ils ont dit, allons-y, on va être vainqueurs. Mais c'est la foi qui nous motive. Et quand on freine des deux pieds, eh ben, on ne peut pas dire que finalement, eh bien, on a une foi vigoureuse. Hein. C'est véritablement ne pas faire confiance à Dieu. Que vous ne fassiez pas confiance aux hommes, je comprends. Mais que vous ne fassiez pas confiance au Seigneur, c'est autre chose. Sa parole nous dit la vérité, elle est rassurante et elle est encourageante. Enfin, c'est comme ça que je le vis, moi, en tous les cas. Tout renoncement et dépouillement nous laisse avec un sentiment de nudité. À un moment donné, on se dit, mais on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus... Mais si on est encore nous-mêmes, mais en perspective d'être une nouvelle personnalité, quelqu'un de nouveau, Sentiment de nullité, de manque apparent, je dis bien apparent, mais nous, notre démarche, Jésus nous le dira, jugez non pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais faisons confiance, je vous en supplie, mes frères et sœurs, faisons confiance à un Dieu qu'on ne voit pas, il est invisible. Mais c'est ça la foi, c'est croire dans l'invisible. Car c'est à cela qu'il nous prépare. Dans le ciel, il y a un édifice, il y a une demeure spirituelle. Ce n'est pas une misérable coquille, un corps d'humiliation, certes, mais c'est une demeure spirituelle qui n'a pas été faite de main d'œuvre. Le travail de la sanctification, de la régénération, du renouvellement de notre vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre spirituelle de Dieu. Et c'est pas par nos efforts, c'est pas par nos mérites, en pensant que nous sommes... Alors là, on va ressembler aux pharisiens, hein, on n'a pas envie de ressembler aux pharisiens. Ça n'a pas été fait de main d'homme. Ce n'est pas des œuvres mortes où certains s'évertuent à essayer de plaire à Dieu en essayant de grimper dans le ciel et puis de faire des choses extraordinaires en disant « Seigneur, tu dois être content de moi parce que il n'y en a pas 36 sur la terre comme moi, hein, je suis quand même le meilleur et le plus beau, le plus intelligent. Hein. » Là, on explose, hein. Ce n'est pas le légalisme, ce n'est pas la religiosité, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui, ce qui est mortel, et nous sommes dans cette condition, soit englouti par la vie qui va jaillir. Il y a quelques jours, on a fêté Pâques. Eh bien, Pâques, c'est exactement ça. Le mot Pâques, en hébreu, ça veut dire épargner. Ça veut dire passer outre, avancer. C'est ça, Pâques. La Pessa. En hébreu, Pessa. Mes frères et sœurs, vous m'en voulez pas? Ben vous me répondez pas, je pense que... Laissez-moi finir l'année, s'il vous plaît. On va prier. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. On va incliner nos têtes et on va remercier le Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole. Nous pensons que pour la plupart d'entre nous, Seigneur, et certainement le plus grand nombre, nous avons compris, Seigneur, que la vie, Seigneur, c'est une école. La vie, c'est un passage. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Mais Seigneur, lorsque tu nous as pris, lorsque tu nous as appelés, lorsque tu as mis, déposé dans notre cœur la foi dans notre cœur, au fond de nous-mêmes, ce n'était que le début. Le tout début, le petit début, Seigneur, à une vie qui se prolonge autant que tu nous donneras le souffle. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes venus dans ce monde avec une carapace, avec une enveloppe, Seigneur, dans laquelle nous avons fait notre demeure et que nous ne voulons pas lâcher pour rentrer dans quelque chose de meilleur. Parce que même si tu nous as donné des choses qui sont bonnes et bien, Seigneur, ce que nous savons, ce que nous voulons nous souvenir, c'est que tu nous as pas promis à ce qui est bien et ce qui est le meilleur. Tu nous as pas promis ce qui est bon et bien, mais tu nous as promis ce qui est le meilleur. Et nous voulons le meilleur, Seigneur. Et nous laisser faire, nous laisser dépouiller pour nous revêtir. Je te demande, Seigneur, de te révéler, de te manifester pour que l'Église grandisse, qu'elle croisse, qu'elle puisse véritablement, Père éternel, être, là, un modèle de fruit dans cette région, partout, Seigneur, avec un bon témoignage. Où les gens pourront dire, ce sont des hommes et des femmes, avec humilité, Seigneur, qui mettent et qui vivent leur foi complètement et totalement. N'est-ce pas là notre désir, Seigneur? N'est-ce pas là le désir que tu souhaites que nous ayons et que nous portions au fond de notre cœur? Qu'il en soit ainsi. Merci parce que je crois que tu es à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous et que tu fais quelque chose, Seigneur, que nous ne pourrions pas faire nous-mêmes, nous en serions incapables, mais Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ces exploits, ils ne sont pas visibles à l'extérieur. Ils commencent par notre vie intérieure, notre âme, notre cœur, nos sentiments, notre volonté. Merci Seigneur, au nom de Jésus.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.